Monde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage. Onde Femme. Onde Femme, c'est sur Radio Zone 93.8. Et c'est tous les mercredis.
Kosova ime dashur, o sa shumë të dua, plagë tua të rënda, kur në të shëruan. Brenga dhe mali yt, gjithë një më djegë përvlon, edhe pse jam në mërgim, kur zë të harroj. Kosovën ton të shtrejnët, po e laj me gjak, po val. A do të vije dita, ku do të marrim hak? Shumë bije bia, për ty do të bijen fli, që të bëhesh e lumtur, të të rosh në liri.
Ça, c'est Arta. Arta, elle est jeune, elle est kosovare, elle a 16 ans. Elle écrit elle-même ce poème qui parle de sa Kosovo dont elle est si triste d'avoir dû partir il y a de cela 4 ans. Et Arta, je l'ai rencontrée à l'Université populaire albanaise à Genève. Aujourd'hui, dans Remue-ménage, eh bien, nous allons parler de la Kosovo. La Kosovo aujourd'hui à feu et à sang, comme il était tellement prévisible qu'un jour cela arrive. Dans Remue-ménage, ce n'est pas la première fois que nous évoquons la Kosovo, parce que ça fait longtemps déjà que nous prévoyons, grâce aux témoignages des Kosovars que nous avons eu l'occasion de rencontrer, qu'il allait se passer quelque chose de terrible. En Kosovo, nous savions qu'il se passait déjà quelque chose de terrible depuis 1958, date à laquelle la Serbie a commencé à exercer sa répression sur cette région de la Yougoslavie, ex-Yougoslavie aujourd'hui, qui avait pourtant obtenu par décision du général Tito, qui était le dirigeant de la Yougoslavie, le statut de région autonome en Yougoslavie. Eh bien, déjà, des répressions extrêmement graves avaient eu lieu en 1968. Un mouvement populaire, déjà, s'était formé en 1968 pour lutter contre la répression serbe. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui en Kosovo, n'est surprenant que pour ceux qui ont voulu fermer les yeux jusqu'à aujourd'hui sur ce qui se passait déjà dans cette région si proche de nous et sur laquelle nous aurions pu déjà agir, en tout cas dénoncer ouvertement ce qui se passait. Or, vous le savez bien, il y a eu cet épouvantable massacre dans le village de Racak. 45 personnes ont été assassinées vendredi passé dans ce village de Kosovo. Il y a eu des réactions à Genève, tout d'abord à la mission yougoslave, où Uli Lejonberger, le directeur de l'Université populaire albanaise, a lancé un appel au consul qui refusait de sortir, qui se cachait derrière sa vitre. Monsieur le consul, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe dans votre pays, mais alors montrez-le, et si vous ne nous répondez pas, bien nous considérons que vous êtes complice avec ce qui se passe. Hier soir, à Genève, il y avait entre 2000 et 3000 personnes qui, elles aussi, ont voulu dire « assez de massacres, assez de palabres, cela doit cesser ». Uli Lejonberger, qui bien sûr était présent à cette manifestation, a dit à la fin de la manifestation « Je crains que nous devrons nous mobiliser en plus grand nombre ces prochains jours car la situation en Kosovo est catastrophique ». Il y avait donc cette phrase est un appel à nous tous pour nous continuer à nous mobiliser et à soutenir les gens encore plus qui sont venus hier soir à la manifestation pour montrer leur désapprobation, toute leur fureur contre les horreurs que vit la population albanaise dans cette région des Balkans. Alors, bien sûr, la manifestation, il y a eu le défilé organisé à la dernière minute, qui est donc en réaction au massacre des 45 personnes perpétrées vendredi passé par la police serbe dans le village de Racak. C'est une réussite, 2000-3000 personnes, c'est déjà pas mal, mais Bien sûr qu'il y a de l'autre côté ce dépit terrible que nous ressentons tous face à l'attitude passive de la communauté internationale et de l'Europe en particulier, l'OTAN qui ne cesse de dire on condamne, mais qui ne font strictement rien. Bien sûr, ce dépit est partagé par l'ensemble des Kosovars à Genève. Les milliers de manifestants qui ont affirmé dans un silence impressionnant, leur solidarité avec la population meurtrie de la Kosovo tentait de réchauffer les cœurs de leurs amis albanais. Il y avait des centaines de torches qui éclairaient le pont du Mont-Blanc et c'est la présence bien sûr de quelques représentants officiels, comme par hasard on les cite toujours, mais enfin bon, reconnaissons leur présence, Laurent Moutinon, Jacqueline Burnan, des députés, des syndicalistes, conseillers municipaux, bien sûr ça fait toujours, c'est important qu'ils soient là. Mais comme le rappelle M. Leuenberger, l'ambiance à l'université populaire albanaise parmi les Kosovars est loin d'être au beau fixe. Les gens sont terriblement abattus, ils se sentent abandonnés du monde entier et ils s'accrochent à ces nouvelles qu'ils peuvent avoir tous les soirs à 18h30 devant la télévision où ils ont des nouvelles par le biais de l'Albanie qu'ils arrivent capter par satellite de ce qui se passe dans leur pays. Alors, on a peur, bien sûr, qu'il y ait une menace de radicalisation de l'opinion albanaise. On craint que l'UÇK, qui est l'armée de libération de la Kosovo, qui fait l'unanimité en sa faveur, bien sûr, qu'il y ait des radicalisations et que, alors qu'on espérait une issue pacifique et diplomatique du conflit, eh bien, aujourd'hui, il y a une vision tout autre, parce qu'il semblerait qu'il y ait de plus en plus nombreux ceux qui pensent que l'unique perspective, bien évidemment, c'est d'aller se battre aux côtés de leurs compatriotes en Kosovo. Par exemple, on a entendu un Albanais qui était présent à la manifestation et qui disait « Tout à l'heure, j'ai parlé au téléphone avec un ami, il m'a dit que sa place n'était plus à Genève. » Alors savoir que des enfants, des femmes et des vieillards ont été sauvagement assassinés, en effet, de quoi retourner les esprits les plus pacifiques, hein. Et il faut que cela sache, semblait dire les manifestants hier soir à Genève. Sur des pancartes, on pouvait lire les noms de quelques enfants dont on savait les noms. Loumni, 11 ans, massacré. Mourat, bébé, massacré. Sabri, 67 ans, massacré. Etc. La liste était longue. Alors, Uli Leuenberger, lui, a réservé des mots extrêmement durs adressés aux autorités et aux forces armées serbes. Il les a traités de bouchers, excités, dirigés par le régime fasciste de Belgrade et d'insister. Comment appeler autrement que fasciste cette clique de criminels de guerre qui décapite des vieillards, arrache les yeux et le cœur à des hommes, des femmes et des enfants qui ont comme seul tort d'être albanais? Alors on s'en doute, la communauté internationale a également eu droit à un traitement de choc par le directeur de l'UPA, du genre de ce que tout le monde pense, assez de palabres, assez de mise en garde sans suite, assez de cette non-intervention qui n'est qu'un signe de complicité avec Milosevic, honte à tous ceux qui bien sûr laissent faire sans réagir. Et la réaction appropriée semblait s'imposer d'elle-même. Il faut que les responsables de ce monde comprennent enfin qu'il faut chercher une solution juste pour la Kosovo, et non pas avec Milosevic et ses acolytes, mais contre Milosevic et sa dictature. Milosevic et son équipe, ces criminels de guerre, doivent disparaître. Alors, nous, ici, que pouvons-nous faire? Eh bien, avec nos modestes moyens, eh bien, dans la radio, nous pensons toujours qu'il est utile de donner la parole à ceux et celles qui peuvent témoigner, qui peuvent parler. Arta, dont vous entendiez le poème, je l'avais rencontrée, je vous le disais, à l'Université populaire albanaise. Elle m'avait lu ce très beau poème qu'elle a écrit. Aujourd'hui, elle doit être retournée, 16 ans, vivre ça de loin en plus. Il y a Fikrié aussi qui m'avait parlé de pourquoi elle avait dû fuir son pays avec ses parents, son père qui avait été battu par la police et qui ne pouvait plus rester, pourquoi ils avaient dû partir, Naïm, Bessim et tous les autres qui témoignent des raisons qui font qu'ils sont là et qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux. Alors aujourd'hui, que pouvons-nous faire? Eh bien, nous avons choisi de donner la parole à quelques femmes qui témoignent en l'occurrence des femmes albanaises. Nous allons en entendre, je vous proposerai la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je vous propose de réécouter une émission qui explique un peu les choses. Des femmes que j'avais rencontrées il y a de cela un certain temps et qui, après des mains de difficultés pour franchir la frontière, parce que ça existe chez nous, avaient pu nous raconter un certain nombre de choses. Je me propose de vous faire réentendre une interview et en la recherchant, je me suis aperçue que quasi jour pour jour, elle avait eu lieu au même moment qu'en ce moment, mais il y a de cela 7 ans. C'était le 6 et le 13 mars 1991. Vous voyez qu'on parlait déjà de la Kosovo à ce moment-là dans Remue-Ménage. Eh bien, j'avais rencontré Gisèle Courty. Virginie Dzegrova et Sanje Sopaj, trois femmes qui sont très liées à la Kosovo, Virginia et Sanje parce qu'elles sont elles-mêmes kosovares, et puis Gisèle parce qu'elle est suissesse, mais elle a épousé un kosovar. Et toutes les trois venaient me parler de la situation de la femme en Kosovo, parce que quand je vous dis que les jeunes femmes ne pouvaient pas venir à la manifestation du 8 mars, en l'occurrence le 7 mars, samedi passé à Genève, eh bien c'est parce qu'effectivement la situation de la femme en Kosovo, depuis fort longtemps, selon la tradition, et encore aujourd'hui, est difficile. Les femmes sont totalement soumises à une société patriarcale, et la situation de la femme entre tradition et modernité, soumise à l'islam, attachée à ses traditions, est très difficile souvent. Mais comme nous l'expliquera plus tard Virginia, les femmes kosovares s'émancipent aussi. Il y a des grandes différences dans le pays selon qu'on habite dans les villes ou selon qu'on est dans ces campagnes si pauvres, entre autres celles qui ont été bombardées tout récemment par les forces serbes. Et donc les choses sont un petit peu différentes. Et puis encore différentes pour les femmes qui ont dû quitter ces régions pauvres pour venir rejoindre, souvent clandestinement, leur mari en Suisse en tant qu'émigrée. Et quelle est leur situation lorsqu'elles doivent vivre en Suisse? C'est un petit peu de tout ça dont nous avions parlé en 1991 avec Virginia, Gisèle et Sanje. Alors, en attendant de parler de ce qui se passe maintenant, des nouvelles qu'elles ont, comment elles essayent de réagir, comment elles essayent de s'organiser, comment réagissent leurs hommes, entre guillemets, tous les hommes qui les entourent, la semaine prochaine, eh bien, je vous propose de redécouvrir ce que disaient Gisèle, Virginia et Sanje de la situation des femmes en Kosovo il y a de cela 7 ans. À cette époque-là, ce qui avait motivé notre rencontre, c'est que ces femmes avaient organisé une semaine, enfin non, la population kosovare de Genève avait organisé une semaine d'animation sur la Kosovo à la maison de Kerchti et des Acacias. Elles avaient l'intention de consacrer pendant cette semaine d'animation une soirée totalement consacrée à la femme kosovare. Et donc, elle m'avait conviée à mener cette soirée-là. Alors, nous avions d'abord discuté un peu de cette semaine d'animation. Elles étaient venues là. Puis ensuite, plus tard, nous avions fait un peu le bilan de la soirée et évoqué la situation de la femme en Suisse. Alors, tout de suite, je vous propose de les retrouver. Il y a de cela 7 ans. Yo! Du Kosovo, de la Kosovo, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il faut dire, parce que Gisèle Courty, qui est avec nous dans le studio aujourd'hui, m'a expliqué qu'on dit la Kosovo. Alors Gisèle, bonjour. Tu es accompagnée d'une femme qui est arrivée avec toi. Malheureusement, une troisième est restée à la douane parce que, comme par hasard, les douanes ont bloqué une de vos compagnes parce qu'elle n'avait pas de papier pour franchir. Il faut remarquer que certaines nationalités ont des difficultés à franchir certaines frontières et que c'est encore assez insensé à l'époque de la communauté européenne et de l'entente entre les différentes nations. Eh bien, nous devrons, hélas, nous passer de la présence de Virginie. C'est bien dommage. Oui. Mais alors, Gisèle, si tu ne peux nous présenter ta compagne.
Oui, alors c'est madame Sanje Sopaj, présente-toi, oui. Qui est une femme kosovare mariée ici et qui habite Lausanne, enfin la région de Lausanne. Voilà, et tu es là depuis combien d'années?
Ça fait 5 ans que je suis là.
Et Sanje, c'est comme ça qu'il faut que je t'appelle? C'est comme
oui,
c'est
Sanje,
juste que. tu es arrivée à Genève dans quelles circonstances?
Mais pour parler pour la femme albanaise kosovare plutôt, pour les problèmes de la femme albanaise en ce qui concerne de la...
Mais ça, c'est ce dont nous parlerons ici. Mais toi, tu es venue en Suisse, pourquoi, comment? toi.
Ah d'accord, je suis venue plutôt pour, à cause des bon, problèmes économiques qu'on avait là-bas. Je suis venue justement pour très peu de temps, pour 6 mois, une année, mais ça fait quand même 5 ans que je suis là. Voilà.
Eh bien, j'imagine que ta situation à toi doit pour être celle de beaucoup de femmes. Oui. Du Kosovo. Gisèle, toi, tu as une situation bien particulière quand même, puisque tu n'es pas kosovare d'origine, tu es suisse, mais tu as épousé un kosovare. Ça, c'est une chose qui n'est pas très fréquente.
Oui, enfin, ça commence à être quand même un peu plus fréquent. Peut-être qu'à l'époque où j'ai connu mon mari, c'était un peu moins fréquent, il est vrai. Les migrations albanaises étaient moins nombreuses et moins connues ici en Suisse. Actuellement, il y a un bon nombre de femmes suisses qui sont mariées avec des Kosovars, donc le cas est courant.
Alors si nous avons décidé de vous parler de la femme de la Kosovo cet après-midi sur Mi-Ménage, c'est parce qu'il y a un prétexte quand même. Bien sûr, c'est l'importance de parler de ces femmes que l'on connaît mal, de cette région que l'on connaît mal, même si elle fait souvent la une des journaux, puisque hélas, il se passe des événements très graves dans cette région de Yougoslavie. Mais c'est surtout parce que les gens du Kosovo qui vivent à Genève et particulièrement Gisèle avec d'autres personnes, ont décidé d'organiser une quinzaine de la Kosovo au centre de loisirs des Acacias à Genève. Alors peut-être Gisèle, ça a commencé hier si je crois bien, donc par une journée d'études, si tu peux peut-être nous parler de ce programme justement.
Oui, alors en fait c'est 3 organisations qui conjointement ont décidé d'organiser 10 jours d'information sur la Kosovo afin de faire mieux connaître le problème politique et économique, etc. Et afin aussi de faciliter les rapports entre la population suisse et cette immigration albanaise, kosovare, qui est encore tellement mal connue, car la communauté est assez fermée. Alors en fait, ces journées se déroulent du 5 au 15 mars. Elles ont déjà commencé, comme vous l'avez dit. Hier, il y a eu une journée d'information qui était très très intéressante puisqu'on a eu aussi une grande participation de la part du personnel social et de l'enseignement. On a été très étonnés. Cela prouvait qu'il y avait une réelle demande de la part de ces fonctionnaires quant à l'information sur la Kosovo. Puis nous avons différentes choses, un programme assez chargé quand même. Le 8 mars, nous avons le vernissage de l'expo photo et l'ouverture des journées d'information. Donc nous aurons un apéritif, des interventions et la soirée sera animée par le groupe musical Skaros qui est spécialisé dans la musique albanaise.
Si vous avez fait le vernissage le 8 mars, est-ce qu'il y aura une petite allusion à la journée internationale des femmes ?
Oui, bien sûr, au départ ça avait tout à fait été fait dans cette idée parce qu'on pensait que justement le problème de la femme était crucial dans le problème des Kosovars et de la Kosovo. Et on a toujours voulu organiser quelque chose avec les femmes, c'est-à-dire les faire danser sur scène, des femmes kosovares. Mais nous n'avons pas pu réaliser ceci parce que nous n'avons pas trouvé des femmes kosovares qui voulaient se montrer en public, car leur mari ne souhaitait pas que leur femme danse devant un public. Donc la date actuellement, c'est bien le 8 mars, mais ça ne coïncide pas vraiment. On ne pourra pas avoir la présence féminine qu'on aurait souhaité pour cette journée. Ensuite, le 9 mars, nous avons une après-midi culturelle où nous allons exposer la langue, la littérature, des problèmes d'ethnologie, les costumes par exemple, ou la population albanaise, ainsi que la musique albanaise et la danse albanaise aussi. Le 12 mars, nous avons un exposé débat qui, lui, est en relation avec le problème de la femme. Il s'appelle « La femme albanaise entre tradition et modernité » et il commencera à 20h15, donc toujours à la maison de quartier des Acacias, 17 rue des Acacias. À ce débat participeront diverses personnalités, dont justement vous aussi, comme journaliste. Nous avons des femmes kosovares, Virginie Jegrova, qui n'est pas là, qui est donc coincée à la douane actuellement, et différentes femmes qui connaissent bien le problème, des femmes suisses qui sont en relation avec les femmes kosovares. Le jeudi 14, nous avons un point très fort de notre semaine d'information, qui est l'exposé débat « Yougoslavie, poudrière des Balkans, quel avenir pour la Kosovo ?» De nouveau à 20h15. Donc ici, c'est le débat politique. Le problème politique sera mis sur le tapis et nous aurons divers participants, dont René Longet, qui est un député bien connu dans la région genevoise.
Et qui s'intéresse à la question de la Kosovo en particulier.
Oui, ça fait plusieurs années que nous avons rencontré René Longet et il s'est toujours préoccupé du sort des Kosovars, des réfugiés politiques et du sort donc de la province, du sort dramatique que vit la province actuellement. Nous aurons aussi la présence de M. Jafer Chatri, qui est un opposant politique kosovar très connu en Suisse, qui est très actif. Et un représentant de la LDK, qui est M. Malut Sopai, qui est justement le mari de la dame qui est ici présente, et le comité SOS Kosovo, qui bien sûr va participer activement à ce débat. Voilà en gros les manifestations de cette semaine kosovare.
Alors peut-être nous vous rappellerons en fin d'émission quelques-unes de ces échéances, mais effectivement, je crois que ça vaut la peine que pour une fois, nous venions nous informer avec directement des témoignages des personnes présentes qui viennent de la Kosovo et qui peuvent nous témoigner de ce qui se passe dans cette province. Alors pour nous, cet après-midi dans Rue-Ménage, c'est les femmes, bien sûr, qui font l'objet de notre intérêt. Alors on s'est proposé avec Gisèle et Virginie de partager cette émission en deux parties. Une première partie qui, sur une idée fantastique de Gisèle, consisterait à vous lire des extraits de textes littéraires écrits par des Albanais ou des gens, des Albanais de la Kosovo, et de découvrir par ces textes-là la place de la femme dans la société albanaise ou la société albanaise du Kosovo, de la Kosovo. Je vais me tromper encore souvent, je m'excuse Gisèle, ouais, j'essaie de me corriger. Alors, c'est ce que nous vous proposons dans cette première partie. Et en deuxième partie, eh bien, nous parlerons de la situation de la femme dans la société bien contemporaine du Kosovo et de savoir quelle place prend la femme, soit dans ce qui se passe actuellement dans la province, en Yougoslavie, et puis quelle est la situation des femmes qui, comme Sanié, sont venues en Suisse, soit parce que pour des raisons économiques, comme elle vous l'a dit, soit pour des raisons de recherche d'un refuge, puisque maintenant bon nombre de gens ont la double situation qui se confond, parce que c'est pas que pour des problèmes économiques, mais y compris pour des questions de violation des droits de l'homme, que beaucoup de gens quittent en ce moment la province de la Kosovo. Alors voilà un petit peu comment on vous parlera de la femme de la Kosovo cet après-midi. Alors tout de suite, pour vous embarquer dans les textes littéraires et découvrir la place de la femme dans la société albanaise, eh bien je vous mets une première musique qui chante le premier texte que je vais vous lire, qui est la légende de la femme emmurée. La brume enveloppe la bune et la tient pendant 3 jours. Mais au bout de ces 3 jours, un léger souffle se lève et fait éloigner son voile, le portant à Valdenus, où se trouvent à travailler 3 frères, les 3 chrétiens. Mais ce qu'ils bâtissent de jour s'écroule pendant la nuit. Un saint passe dans les parages, il salue les 3 frères. « Ah, le bon travail !» dit-il. « Quel travail ?» fut la réponse. « Si ce qu'on bâtit le jour s'écroule pendant la nuit, peux-tu nous confier, saint homme, le secret du bâtiment ?»« Ce secret, je le connais, mais le dévoiler aux autres, c'est commettre un grave péché. Que ce péché tombe sur nous. » Et le saint de demander. « Êtes-vous mariés, les 3 ? Avez-vous les 3 vos femmes ?»« Oui, les 3 nous sommes mariés, nous avons toujours nos femmes. Mais dis-nous de grâce, comment pourrait-il tenir ces murs ?» Pour faire tenir ces murs, le dimanche, point de travail. Mais jurez sur votre foi de ne rien dire à vos épouses. Demain, celle de vos femmes qui vous porte le repas, vous devez l'emmurer. Alors, toute muraille tiendra bien, résistera. Vous pourrez continuer. Mais hélas, l'aîné des frères renia la foi donnée, en parla avec sa femme, la prévint pour l'autre jour. Le second fit de même. Peu soucieux de ses conseils, il renia la foi donnée, ne sut pas garder le silence, en parla avec sa femme. Mais le plus jeune des frères, le plus jeune et le meilleur, tint sa foi et sa promesse, ne dit pas un mot chez lui, ne prévint point sa femme. Et le lendemain, les frères s'éveillent de grand matin, et ils piquent sur les pierres, les cœurs battent à tout rompre, loin d'ici dans la maison. Mère appelle l'une après l'autre. Et là-bas, la grande brue, les maçons doivent manger, ils veulent le broc de vin, ils veulent la cruche à boire. Oh maman, je ne peux pas, ce matin je suis souffrante. Et là-bas, la deuxième brue, les maçons doivent manger, ils veulent le broc de vin, ils veulent la cruche à boire. Ah maman, dispense-moi, je me rends chez mes parents. Et toi, la troisième brue, me voilà mère, à l'instant. Les maçons doivent manger, ils veulent le broc de vin, ils veulent la cruche à boire. Oui, je pars à l'instant même, mais veille sur mon petit. Prends le tout et pars, ma fille, je me charge du petit. Elle prit le déjeuner, elle prit le broc de vin, dévala vers Kazena. Quand elle approcha l'enceinte, les marteaux cessèrent net, les cœurs cessèrent de battre, les visages devinrent blêmes. Lorsque le mari la vit, il lança dans un juron avec force le marteau sur ses murs de château. « Pourquoi le lancer, mon homme ? Sur toi est tombé le sort, tant muré dans l'oubliette. » Mes beaux frères, portez-vous bien. Je veux dire mes derniers mots. Quand vous me mettrez au mur, laissez-moi dehors la main. Laissez-moi dehors un œil. Laissez-moi dehors un pied. Laissez-moi dehors un sein. Car je quitte mon enfant, et s'il se met à vagir, je veux le suivre d'un œil, le caresser d'une main, le faire téter d'un sein et le bercer d'un pied. Que mon sein se pétrifie, que le fort se fortifie, que mon fils puisse en jouir, qu'il devienne un grand roi, qu'il y guerroie. Gisèle, où est-ce que vous avez trouvé cette magnifique légende de la femme emmurée ?
Dans un chansonnier épique albanais qui a été publié il y a quelques années en Albanie, à Tirana en 83, et qui essaye de rassembler toutes ces chansons populaires, ces chansons épiques qui au départ étaient orales et qui ont été transmises oralement pendant des siècles. Et c'est que récemment, en tout cas ce n'est qu'au XXe siècle, qu'on a commencé à les rassembler parce qu'on a pensé que c'était un trésor culturel, populaire, très très important. Donc la plupart de ces chansonniers ont été publiés en Albanie et il y en a un qui a été publié par l'UNESCO, j'ai entendu en tout cas, le chansonnier albanais.
Alors cette légende nous montre effectivement un rôle particulier de la femme. Elle est là pour faire tenir les murs. Alors quelle image cette légende donne-t-elle de la situation de la femme dans la réalité de la société albanaise ? Sani ou Gisèle, je ne sais pas laquelle des deux veut répondre.
Bon, pour illustrer mieux de ce problème de légende, alors je vais citer Recep Tosia de ce qu'il a dit. Notre peuple conscient pour le sort de la femme albanaise dans son art et ses légendes a sculpté avec génialité ce sort. Les légendes nous parlent que dans les murailles des fortifications et des châteaux ainsi que dans les colonnes des ponts coule le lait de la femme, laquelle était consacrée pour leur construction. Dans la femme et dans leurs fondements, dans les murs des châteaux, le lait coule auprès le sang des hommes, mais sur le pont de la paix, elle s'écrasait. Le peuple n'a pas caché la contradiction.
Oui, ce qu'il faut dire pour ces légendes très anciennes, c'est qu'elles portent en elles des éléments de l'inconscient et de la mémoire collective dont les gens ne se rendaient pas forcément compte à l'époque. On peut dire pour cette légende, par exemple, en plus de ce qu'elle a dit, notamment très important, du lait de la femme et du sang de l'homme, qu'elle exprime bien la position de la femme dans la société albanaise, c'est-à-dire le fait que la femme est le ciment et la cohésion de cette société. Et cette place très importante, souvent la femme la payera de sa vie. On sait par exemple qu'en Kosovo, en Albanie, ce sont pratiquement les seules régions d'Europe où la femme a une durée de vie plus courte que celle de l'homme, parce que les maternités provoquent souvent la mort des femmes. Au niveau de la cohésion sociale, la femme, il est vrai, assure cette cohésion parce que dans la société albanaise qui est formée de tribus, d'une certaine manière, de gens, un peu à la manière des gens latines, seule la femme circule, puisque l'homme est élevé dans la même famille, reste dans sa famille, et seules les femmes circulent entre les tribus, puisqu'on prend femme pratiquement toujours dans une autre tribu, dans une autre famille, dans une autre gens. Donc la femme assure les liens à l'intérieur de la société entre ces différentes tribus, si on veut bien venir là.
Ce que vous nous dites là, est-ce qu'on pourrait chaque fois préciser si ce que vous dites là est encore valable aujourd'hui ou fait partie d'un passé qui est révolu ?
Oui, la situation est toujours ambiguë parce que le passé n'est jamais vraiment révolu. En tout cas, en Kosovo, en Albanie aussi, on a essayé d'enterrer le passé. Le communisme a essayé de rénover complètement la société, mais le passé est beaucoup trop profondément ancré à l'intérieur des gens. En Kosovo, la situation est double. Dans les villes, on peut dire une chose comme ceci. Par exemple, le fait de ne pas épouser une femme dans sa tribu, si on veut bien venir là, une tribu peut contenir jusqu'à 20 000 personnes. C'est très large, le sens est très large. Dans les villes, les gens n'en ont plus rien à faire de cette tradition. Mais dans les villages, le peuple est encore conscient de la tribu, le fils, on dit en albanais, est encore conscient de la tribu à laquelle il appartient et n'épouse jamais une femme dans le même village, pratiquement jamais, ça se fait actuellement, mais très rarement, et va chercher souvent très loin la femme, 20, 30, 40 kilomètres. Donc c'est encore cette tradition qui reste.
Il est une chose qui m'a frappée aussi dans ce texte, c'est la façon dont c'est la mère qui organise la vie des femmes. C'est la mère, j'imagine, c'est la belle-mère en fait, pour la plupart de ces femmes, puisqu'elles sont les épouses des fils. Et alors, peut-être vous pourriez nous parler de cette structure.